Vous êtes sur RTL.
Demain en direct.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Praud.
12h30, 14h30, 2h d'infos, de débats, mais aussi d'opinion avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, ce cauchemar dans le Jura, 4 lycéens morts, pris au piège dans leur voiture, tombés dans un lac. Ça s'est passé hier soir, la route était visiblement très mauvaise. Dans ce journal également, un nouveau conseil de défense sanitaire et peut-être bientôt moins de restrictions. Et puis à 80 jours de la présidentielle, un maire a décidé, figurez-vous, de faire voter ses administrés. Pourquoi ? Pour savoir à qui il devait donner son parrainage.
Juste après le journal, on échange, on décrypte, on débat comme chaque jour avec deux sujets. L'un dramatique, vous le savez, l'accident et le décès de Gaspard Huliel. D'où cette question, est-ce que le ski est plus dangereux ? Est-ce que le casque devrait être obligatoire sur les pistes ? Et à 12h50, donc le boom de la voiture sans permis avec Christophe Bourou qui l'a testé pour nous.
Notre question du jour sur RTL.fr, justement, faut-il rendre le casque obligatoire sur les pistes de ski? Vous dites oui à 77%. Notre météo, c'est avec vous, Peggy Broche, bonjour.
Bonjour Amandine.
Bon, c'est un peu mieux qu'hier.
Oui, on a plus d'éclaircies sur le nord-ouest aujourd'hui. C'est bien dégagé près de la Méditerranée, mais au prix d'un vent fort. Et puis entre les deux, du sud-ouest au nord-est, ça reste couvert avec encore quelques précipitations sur les Pyrénées. De la neige dès 900 mètres, juste quelques flocons entre le massif central, les Vosges et les frontières du nord. Et puis la Corse retrouve un temps plus sec cet après-midi et plus lumineux. Le tout sous des températures stationnaires de 4 à 8 degrés jusqu'à 14 près de la Méditerranée.
Merci Peggy, à tout à
l'heure. RTL Midi.
Et pour commencer, donc, direction Champagnole dans le Jura, c'est là qu'étaient scolarisés ces 4 lycéens morts hier soir, pris au piège, je vous le disais, dans leur voiture, tombés dans un lac. Le drame est effroyable. Bertrand Frachon, vous êtes sur place pour RTL, devant l'établissement. Élèves et personnels sont bien sûr effondrés.
Oui, ici devant le lycée Paul-Émile Victor de Champagnole, les lycéens sont sous le choc ce matin et rares sont ceux qui acceptent de s'exprimer devant un micro. Nous avons pu recueillir le témoignage de Philippine, elle est élève de terminale et connaissait bien l'une des 4 victimes.
Je connaissais une des filles en terminale, je partageais des cours de sport avec elle et c'est vrai que ça va faire vraiment un très grand vide parce que c'était une fille très dynamique, toujours avec le sourire et ça va vraiment créer un gros vide, un gros manque. C'est vraiment horrible ce qui se passe. Ce matin, on est tous dans un sentiment d'injustice. On se dit pourquoi nous, pourquoi nos amis, pourquoi des jeunes qui ont seulement entre 15 et 19 ans.
Dès hier soir, une cellule d'accompagnement psychologique a été mise en place au lycée avec une dizaine de personnes. Le chef d'établissement présent sur place ce matin peine lui aussi à cacher son émotion.
Comme vous pouvez l'imaginer, l'établissement vit une immense tristesse et une douleur incommensurable. Mais pour l'heure, l'ensemble des personnels sont solides. Nous faisons face pour pouvoir accueillir l'ensemble des élèves qui ont besoin de notre soutien.
Les cours étaient malgré tout maintenus ce matin, mais les élèves qui le souhaitaient ont été autorisés à rejoindre leur famille.
4 élèves, hein, âgés seulement de 15 à 19 ans. Bertrand Frachon à Champagnole pour RTL. Le préfet du Jura a donné ce matin une première conférence de presse. Il décrit des conditions très très difficiles. La route était extrêmement glissante, verglacée. Il est encore trop tôt, dit-il, pour savoir si le véhicule roulait trop vite. C'est, on le rappelle, un 5e lycéen qui a réussi à s'extraire de cette voiture qui a donné l'alerte. Écoutez.
Il a pu héler une passante et ensemble, ils ont pu appeler les pompiers, le 18, hein, évidemment la personne qui est jeune garçon était en état de choc, il était aussi en hypothermie à vrai dire. Des gendarmes à proximité se sont rendus immédiatement sur place, ont prodigué les premiers secours. Les pompiers sont arrivés très, très rapidement, des plongeurs aussi, mais malheureusement ils n'ont pu secourir les 4 victimes.
David Filot, le préfet du Jura, lui aussi très ému, vous l'avez entendu, après donc ce drame qui a coûté la vie à 4 lycéens.
Autre drame, vous le savez, vive émotion après la mort de Gaspard Huliel, tué suite à un accident de ski.
L'enquête est toujours en cours, pas d'explication sur les circonstances, si ce n'est qu'il a percuté un autre skieur. C'était avant-hier sur une piste de La Rosière. Laure est arrivée sur place juste après les secours.
Ben moi j'ai vu les secours, mais j'ai pas fait attention en fait. Ça arrive souvent sur les pistes qu'il y ait des secours, des jambes cassées, mais je me suis jamais dit qu'il y allait avoir quelqu'un qui allait décéder quoi. Mais je pense que c'est malheureusement sur une piste bleue, c'est là où les gens font le moins attention, ce qui est un petit peu n'importe comment et les accidents c'est vite arrivé quoi.
Trop vite, c'est ce qui est trop vite.
Ouais, il y a pas mal de gens qui skient vite. Sur les pistes noires, rouges ou même le hors-piste, les gens font vachement attention parce qu'ils se disent qu'ils peuvent tomber, alors que sur une piste bleue, les gens foncent à toute vitesse. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui n'ait pas de protection, pas de casque. Enfin, ça arrive super vite, quoi. De base, moi, je fais très attention sur les pistes, hein, mais c'est vrai que là, c'est super choquant, quoi. On voit ça, on se dit, merde, ça peut arriver à tout le monde, donc ça fait peur.
Toujours choqué, donc.
Ouais, bien sûr, choqué, ouais.
Un témoignage recueilli pour RTL par Frédéric Perruche. Dans l'actualité également, ce nouveau conseil de défense sanitaire ce matin à l'Élysée. William Galibert, bonjour, vous êtes sur place pour RTL. Alors ça y est, on va enfin pouvoir alléger les restrictions ou pas ?
Non, pas tout à fait, Amandine. C'est pas pour tout de suite. Les mesures annoncées à Noël, non, mais l'ambiance est déjà un peu lourde et je vais pas l'alléger. Les mesures annoncées à Noël, vous vous en souvenez, elles avaient fait grogner. Pas de café debout, interdit de manger au cinéma ou dans les trains, les jauges aussi pour les grands événements, le télétravail obligatoire. C'est ça qui était en discussion ce matin, parce que ces mesures, elles expirent normalement dimanche soir à minuit, mais elles devraient bien être prolongées pour une quinzaine de jours. C'est la tendance qui se dessine. Alors, petite subtilité, au lieu d'annoncer que tout sera prolongé de 15 jours, il sera dit que tout sera fini dans 15 jours. Vous voyez l'astuce ? L'idée, c'est de faire passer la pilule un peu plus facilement. C'est Jean Castex ou Olivier Véran qui devraient s'en charger dans la soirée. Alors, ce sont des questions sanitaires qui ont aussi des implications politiques. On sait qu'Emmanuel Macron regarde de très près la situation avant de pouvoir se déclarer candidat. Et ça pourrait donc repousser un peu cette annonce officiellement.
William Galibert, en direct de l'Élysée. C'est dans ce contexte que plusieurs syndicats d'enseignants appelaient aujourd'hui à une nouvelle journée de grève. On est loin de la mobilisation de la semaine dernière. Un mouvement très peu suivi puisque le ministère annonce 1,67% de grévistes dans les écoles. On était à 31% jeudi dernier.
La politique, William Galibert le rappelait il y a quelques secondes, nous sommes à 80 jours de la présidentielle du premier tour.
Marine Le Pen est en déplacement à Fréjus, la candidate RN contrainte de se passer de l'un de ses porte-parole, Jérôme Rivière, qui a annoncé hier qu'il rejoignait Éric Zemmour, un non-événement, c'est ce qu'elle répond en tout cas.
C'est pas son ralliement à lui qui va en entraîner d'autres. Peut-être y aura-t-il une ou deux personnes qui, d'ailleurs souvent pour les mêmes raisons, hein, c'est-à-dire on n'a pas obtenu, on réclame, on n'a pas obtenu ce qu'on a réclamé, et donc comme on n'a pas obtenu ce qu'on a réclamé, on va ailleurs. Il y a une espèce de vent de mercenariat dans la vie politique française qui ne touche pas d'ailleurs que le Rassemblement National. Il y aura zéro impact politique parce que Jérôme Rivière avait zéro impact politique au Rassemblement National. Donc je ne crois pas qu'il en ait en dehors du Rassemblement National. Mais...
Marine Le Pen qui, comme d'autres candidats, est toujours en quête de ses parrainages. Il en faut 500, on le rappelle, un casse-tête pour bien des maires sans cesse sollicités. Celui de Sainte-Anastasie-sur-Issole, dans le Var, a décidé de s'en remettre à ses administrés. Ce sont eux qui vont voter, Étienne Baudu.
Olivier Hoffmann n'est affilié à aucun parti politique et il ne souhaite pas afficher publiquement vers qui son cœur balance. Mais il a décidé de ne pas suivre l'exemple de son prédécesseur, lui aussi sans étiquette, qui avait choisi de ne pas attribuer son parrainage.
Je crois que c'est malheureusement la position de beaucoup de petits maires qui se retirent pour éviter la polémique, pour éviter de se voir attribuer une couleur politique, alors que là, ça ne sera pas forcément ma couleur, ça sera la couleur de la commune.
Et donc dans une volonté démocratique, dit-il, il appelle les habitants à venir voter les samedis 29 janvier et 5 février pour cette consultation citoyenne.
Ah, de toute façon, oui, quel que soit le vote, même s'il ne correspond pas forcément à mon sentiment personnel, bien évidemment, le parrainage sera établi en fonction du candidat qui sera désigné. Et si c'est le souhait de la population qu'on soutienne un petit candidat, ben je soutiendrai un petit candidat.
Et les habitants rencontrés sont tous enthousiastes à l'image de Monique et Monique, hein, ravis toutes les deux que leur avis soit pris en considération.
Et il nous demande de choisir avec lui. Je trouve ça tout à fait normal.
On est tous importants dans le village, quoi. On est tous concernés, donc on fait ça en communion. Ça, c'est une façon de faire participer tout le monde, quoi. Voilà, donc les gens vont réagir.
Et justement, pour valider le choix, le maire a demandé qu'au moins un quart des habitants inscrits sur les listes électorales se déplacent.
Étienne Baudu à Sainte-Anastasie, sur Issole, dans le Var, pour RTL. À propos de politique, sachez que François Baroin, que beaucoup auraient souhaité voir candidat à cette présidentielle, prend la tête de la filiale française de la banque Barclays. Le maire de Troyes aura notamment pour mission, c'est ce qu'indique la banque, de participer au développement des relations avec les grands clients. Une présidentielle qui est à vivre, vous le savez, sur RTL. Depuis le début de la semaine, Valentin Boisset est à l'écoute de vos préoccupations à Orléans, rue de la République. N'hésitez pas à lui rendre visite toute la journée. Il est au café de la Carrosserie et vous attend justement pour vous entendre dans cette rue de la République qu'il sillonne depuis lundi.
À l'étranger, la Russie très remontée ce midi après les propos hier soir de Joe Biden.
Le président américain a promis à Moscou un désastre en cas d'attaque militaire contre l'Ukraine.
La Russie sera tenue pour responsable si elle envahit. Si elle le fait avec les forces à la frontière, ce sera un désastre pour la Russie. Le prix à payer sera fort. En cas d'invasion, les conséquences seront terribles. Immédiatement, à moyen terme et à long terme.
Bonjour Julien Fautra.
Bonjour.
On a rarement entendu le président américain aussi ferme. Ça peut aller jusqu'où ? Jusqu'à une guerre ?
C'est en tout cas ce que sous-entend le président américain. Parce que, un, la Russie est prête pour cette guerre. On évoque souvent le chiffre de 100 000 soldats russes à la frontière commune avec l'Ukraine. Deux, les médias russes, la télévision prépare l'opinion publique à un discours hostile au gouvernement ukrainien libéral et qui voudrait sortir de la sphère d'influence de la Russie. Trois, des attaques informatiques sont souvent théorisées pour déstabiliser un pays comme préalable à une intervention armée. L'Ukraine, plusieurs de ses ministères ont été visés la semaine dernière. Le rapport de force devient le mode d'expression assumé des relations internationales. C'est pas moi qui le dis, c'est Emmanuel Macron. Hier soir, en demandant aux armées françaises de se préparer, c'est le monde dans lequel nous vivons, a-t-il répété. La Russie ne cédera pas, empêcher coûte que coûte l'Ukraine, son voisin, d'entrer dans l'OTAN et rejoindre l'alliance des Européens et des Américains.
Julien Fautra du service étranger de RTL, du tennis avec l'Open d'Australie qui continue et ça se passe bien pour Benoît Paire qui s'est qualifié pour le troisième tour en battant le Bulgare Dimitrov, 28e mondial. Bon, le Français affrontera Stefanos Tsitsipas au prochain tour, ça risque d'être compliqué mais on croise les doigts.
Dans une seconde, premier sujet du jour, après le drame et le décès de Gaspard Ulliel, est-ce que le ski est plus dangereux ? Avec cette question accessoire qui va avec, en tout cas, est-ce que le casque est obligatoire ? Est-ce qu'il devrait être obligatoire sur les pistes ? À tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
On a eu l'alerte via un skieur qui était sur le télésiège et via un témoin sur site. Donc on a été prévenu très rapidement et une minute après, le premier pisteur était sur site. Une espèce de patte doigt entre deux pistes bleues, des pistes de difficulté moyenne, mais très familiales et sans difficulté particulière et sans dangerosité non plus particulière. On aime profondément le ski, notre montagne, et c'est dramatique quand quelqu'un y perd la vie.
Et cet homme que vous venez d'entendre, c'est le directeur du domaine skiable de La Rosière, très ému après le décès de Gaspard Ulliel, un drame qui nous a tous interpellés et qui intervient quelques jours seulement après un autre samedi. C'est une petite fille de 5 ans qui est morte sur une piste de ski à Flaine, percutée par un autre skieur. Alors le ski est-il plus dangereux aujourd'hui qu'avant ? Faut-il durcir les règles ? Rendre par exemple le casque obligatoire ? C'est le premier débat d'RTL Midi. Bonjour Bernard-Pascal Mousselard.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'Association nationale des directeurs de piste et de la sécurité des stations de sport d'hiver. Alors, les deux drames que j'évoquais se sont déroulés dans des circonstances très différentes. Dans les deux cas, il y a des enquêtes qui sont en cours. Donc, l'idée, c'est vraiment pas, monsieur, de vous interroger sur ces deux affaires. En revanche, sur le nombre d'accidents qui restent aujourd'hui très peu nombreux, le nombre d'accidents mortels est fort heureusement une quinzaine en moyenne chaque année depuis 10 ans. Mais il y a quand même 130 à 140 000 accidents chaque année sur le domaine skiable français. Est-ce que vous diriez que c'est plus qu'avant ?
Plus qu'avant, plus qu'il y a, des trentaines, 40 ans, oui, parce qu'il y avait beaucoup moins de skieurs sur nos pistes. Par contre, on est sur des moyennes qui se tiennent d'année en année, voire qui descendent. On travaille beaucoup sur la prévention, sur la formation, sur des campagnes de prévention. Cette année, nous avons fait une campagne ce qui est cool, ce qui est zen, ce qui est tranquille, profiter des vacances. Mais on voit que quelquefois, sur des cas plutôt rares, mais ça arrive, il y a des accidents graves, on est dans sa bulle. Et voilà, sur une collision comme on a entendu, c'est dramatique.
Les collisions, c'est 10% des accidents sur les pistes. Est-ce que vous diriez que le ski est plus dangereux aujourd'hui qu'il n'a pu l'être il y a 10 ans ?
Dangereux, non. Plus facile. On apprend beaucoup plus facilement à faire du ski. La dangerosité vient avec la vitesse. La vitesse, elle ne doit pas prendre en compte l'environnement. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul sur les pistes. Il y a d'autres personnes et c'est là que le danger arrive. On est dans sa bulle et on ne s'occupe pas des autres. Alors, c'est pas une généralité, heureusement. C'est vraiment des cas particuliers.
J'ai le sentiment, Monsieur Mousselard, que les gens sont beaucoup mieux protégés qu'ils ne l'étaient il y a quelques années, notamment le casque. La majorité, me semble-t-il, aujourd'hui, des skieurs portent un casque.
Oui, alors Nokia, c'est une très bonne chose. C'est devenu un effet de mode et tant mieux. Tant mieux, ça fait partie pratiquement de la tenue complète du skieur. La combinaison de ski, les bâtons, les belles lunettes et le casque maintenant va avec. On n'a pas encore 100% de casque, encore loin de là. Mais on
non
a
mais vous l'évaluez à combien le nombre de gens qui portent un casque aujourd'hui sur les pistes?
J'ai pas trop l'idée, mais à voir les personnes qui ont des casques, il y en a de plus en plus. On est plus de la moitié des personnes qui skient, voilà, trois quarts peut-être, deux tiers...
Le casque, ça réduit d'un tiers les risques de traumatisme crânien, de deux tiers même chez les moins de 13 ans. Et pour l'instant, ce casque, il n'est pas obligatoire. Il n'y a que les écoles de ski qui le demandent pour les enfants, pour les cours. Bernard Pascal Mousselard, il faudrait le rendre obligatoire pour tout le monde ?
Alors c'est toujours compliqué de rendre quelque chose obligatoire, surtout chez nous. Donc le conseiller fortement, ça c'est sûr. Alors, le casque obligatoire ne protège pas non plus de tout. Hein, la vitesse, quoi qu'il arrive, casque ou pas casque, il peut y avoir l'accident grave peut être là aussi, ça arrive. Par contre, il est obligatoire, par exemple, sur le vélo. Est-ce qu'un jour deviendra-t-il obligatoire sur les pistes? Là, je ne peux pas le prédire, mais le conseiller fortement, oui.
Vous dites qu'effectivement, il ne protège pas de tout. Gaspard Ulliel ne portait pas de casque avant-hier, mais cela n'aurait pas nécessairement changé quelque chose, a dit hier la procureure de la République d'Albertville. Ça ne protège pas de tout. Le drame qui a touché Gaspard Ulliel, il a eu lieu sur une piste bleue. C'est là qu'ont lieu les plus nombreux, enfin, qu'il y a le plus d'accidents, pardon.
Alors, en ce moment, on entend, oui, c'est deux pistes bleues. Il fait très beau en montagne, la neige est excellente, tout est blanc, et il n'y a pas beaucoup de monde, hein, c'est une semaine, on n'est pas en pleine vacances, donc les gens sont grisés, et certains se lâchent, il y a peu de monde sur les pistes, on prend vite de la vitesse, et c'est là que l'accident arrive. Quand il y a vraiment du monde en pleine vacances, c'est difficile de faire de la vitesse, il y a des petits accidents, mais moins graves.
Tous ceux qui ont fait un stage pour récupérer leurs points savent que les accidents arrivent bien souvent en ligne droite et quand il fait très beau, parce qu'on se sent en sécurité. Et c'est le problème, entre guillemets, des pistes bleues. On pense que l'accident est moins possible.
Bah, tout à fait. Sur une piste noire, il est compliqué de faire de la vitesse, à moins qu'on soit vraiment cascadeur ou une tête brûlée. Mais sur les pistes bleues, certains, oui, se sentent en sécurité. Et veulent se faire un petit shoot d'adresse de vitesse. Et heureusement que c'est rare, mais ça marque les esprits, c'est dramatique quand ça arrive.
On rappelle qu'une quinzaine de personnes perdent la vie en moyenne chaque année depuis 10 ans sur les pistes. Merci beaucoup Bernard Pascal Mousselard. Je rappelle que vous êtes président de l'Association nationale des directeurs de pistes et de la sécurité des stations de sport d'hiver. C'était notre premier sujet. Notre deuxième sujet, c'est le boom de la voiture sans permis. Vous suivez sans doute Christophe Bourou, qui est parti de Paris pour aller à Chartres et qui revient désormais avec sa petite voiture sans permis. A tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Vous nous faites vivre votre périple à bord de cette voiture sans permis. Vous en êtes où exactement?
Alors, 25 km de parcouru, on a quitté Versailles, direction Rambouillet. Les choses se corsent un petit peu, puisque pour l'instant, on a fait beaucoup de villes. Et là, on arrive dans des endroits un peu plus désertiques où il faut rouler à 70, 80.
Oula.
Et on sent que ça énerve un peu les conducteurs qui sont derrière. Mais pour l'instant, il n'y a pas trop de circulation.
Vous êtes parti un peu avant 5 heures d'RTL, à Neuilly-sur-Seine. Direction Chartres, à une centaine de kilomètres. Où en sommes-nous?
Eh bien Yves, on est pile à mi-parcours, 50 km en 2h30.
Vous l'avez peut-être suivi ce matin sur RTL, le périple de Christophe Bourou et Jonathan Griveaux entre Paris et Chartres, à bord donc d'une voiture sans permis. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Alors vous aviez quitté les locaux de RTL à Neuilly très tôt, hein, un peu avant 5h ce matin, et vous êtes donc arrivé à Chartres aux alentours de 8h30 je crois. 3h30 pour faire 100 km, c'est un peu long quand même.
Bon, c'est vrai, mais la vocation première de ces voitures, c'est plutôt d'effectuer des petits trajets. Hein. En moyenne, les utilisateurs de voitures sans permis font pas plus d'une dizaine de kilomètres par jour. Disons qu'on a poussé l'expérience un peu à l'extrême, voir si on pouvait effectuer, entre guillemets, un long trajet, ce qui est le cas, Paris réussi, avec une vitesse max de 45 km/h. C'est la réglementation hein, de ces véhicules qui sont bridés. Et d'ailleurs, vous êtes obligé de choisir le chemin des écoliers, car c'est interdit sur autoroute, sur voie rapide, les périphérique, ce qui n'est pas forcément simple. Avec le GPS, on a dû se batailler pour trouver les chemins adéquats, les routes adéquates pour vraiment être dans la réglementation. Il faut reprogrammer son GPS qui a tendance à vous faire prendre évidemment les chemins les plus rapides.
Mais là, vous êtes donc sur le chemin du retour. Oui. Vous êtes où exactement?
Alors là, il nous reste 25, on a dépassé Coignières, il nous reste 25 km. Alors, je ne peux pas vous dire le temps.
Et quelle prochaine ville vous allez libérer, Charles?
Je ne sais pas. On arrive à Paris, en tout cas, mais je regarde le GPS, 25 km, mais il nous donne 43 minutes. Mais à mon avis, c'est
le moteur est assez présent, hein, quand même. On l'entend bien.
Le moteur,
ça, c'est un
c'est à l'antenne radio, mais j'imagine vous devez c'est présent le moteur.
Ah, vous souvenez du sketch de Coluche? C'est un diesel. Ben voilà, c'est un diesel. C'est un petit moteur diesel. Et là, effectivement, on l'entend, c'est présent. Ça fait un peu le bruit d'une tondeuse à gazon, c'est vrai. Et ouais, on a ça en aussi. Musique. Ça ronronne depuis le départ, depuis 5h du matin.
C'est un des points négatifs, ça, Christophe, comme, bon, effectivement, le fait que ce soit bridé, mais en même temps, il faut le dire, c'est sans permis. Il y en a d'autres des points négatifs ou pas?
Bah, vous enquiquinez, permettez-moi l'expression, un peu ceux qui sont derrière. Hein. C'est-à-dire qu'on a eu pas mal d'appels de phares, de klaxons. Les
non,
camions,
c'est des gens
alors
qui
là.
Ils vous ont reconnu peut-être en même temps, Christophe, qui souhaitaient partager ce moment avec vous.
Vous savez qu'il y a pas mal d'auditeurs qui à Chartres nous ont accueillis, on était très contents, nous ont suivis.
Parce que c'est une voiture siglée que vous avez.
Non, et ben justement.
Ah, je crois que c'était une voiture RTL siglée.
Non. C'est une voiture Exam, donc ça fait partie des fabricants français. Il y a Exam et Ligier qui font partie des gros fabricants. Et cette voiture, c'est une coupée GTI, figurez-vous. Et oui, ça en jette. Elle a même un double pot d'échappement à l'arrière, ce que je racontais, mais c'est un pot d'échappement fictif.
Ça vaut combien tout,
alors, cette voiture vaut quand même 15 000 euros. Hein. Donc,
et donc, elle est faite pour les gens qui ont perdu le permis de conduire. Hein. C'est ça, les premiers clients, j'imagine, ou parfois peut-être les jeunes, mais c'est surtout des gens qui ont perdu leur point.
Ça, c'est un peu le cliché. C'était valable il y a encore une dizaine d'années. C'est vrai, il y en a encore, mais ça a beaucoup diminué. En fait, avec le Covid notamment, il y a beaucoup de jeunes citadins qui sont allés s'installer en zone rurale. Et pour trouver un travail, pour pouvoir se déplacer, eh bien, pour avoir une voiture immédiatement, ils choisissent cette solution. D'où le boom de ces voitures. Et vous l'avez dit, effectivement, les jeunes aussi, parce que les parents préfèrent que les jeunes utilisent ces voitures dès l'âge de 14 ans, plutôt que de prendre un scooter ou une trottinette électrique qui sont extrêmement bien dangereux.
Alors la direction d'RTL m'informe que vous allez aller à Chartres en trottinette électrique. C'est votre prochain voyage, je voulais vous le dire. Franck Moulin et Jacques Esnoux ont ratifié cette idée que j'ai trouvée assez intéressante d'ailleurs.
Alors si possible un jour où il fait beau.
Ça sera mieux, effectivement. Les ventes ont explosé l'an dernier, Christophe, plus 82%. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez tenté cette expérience. On voulait tester ces voitures qui séduisent de plus en plus. On a vu les points négatifs, quand même, certains. Les points positifs, vous retenez quoi? À part que c'est sans permis.
Non, mais c'est la bonne surprise, c'est que c'est très confortable. Bon, après plus de 7 heures de route, on n'a pas trop mal au dos, même si on est quand même un peu secoué. Mais franchement, je m'attendais à pire. Il y a
d'autant
un grand
que vous
coffre.
Êtes grand, vous, Christophe.
Bah, je fais 1m88. Vous voyez,
vous avez de l'espace, vous avez de la place.
Oui,
pour vos grandes jambes.
Je touche pas le plafond avec ma tête et, et les jambes.
Faites 1m88, on rappelle.
Voilà. Oui. En revanche, Jonathan qui roule là depuis une petite heure a quand même un peu mal aux pieds parce que vous êtes toujours à fond. Donc, pied sur la
c'est
pédale.
C'est-à-dire qu'il y a une pédale évidemment d'accélération.
C'est une boîte automatique.
Donc, il n'y a que deux freins et. Donc, il n'y a que deux pédales.
Et ça consomme beaucoup ou pas, Christophe? Ça, c'est un sujet, un débat du moment.
Non. Là, c'est le bon aspect, puisque on a fait 3,3 litres au 100 km, ce qui est quand même peu pour une voiture qui a quand même une belle autonomie, puisqu'elle a 500 km d'autonomie. Ça veut dire que depuis qu'on est parti d'RTL, on n'a pas refait le plein. Ça, c'est vraiment top. Voiture diesel et aussi qui a le critère 1, vignette critère 1, c'est-à-dire que les jours de pollution, vous pouvez rentrer dans les centres-villes avec ces voitures.
Et ça existe en électrique, ces voitures sans permis?
Oui, Oui. Et la voiture la plus célèbre en ce moment, c'est la Citroën, l'AMI, la fameuse AMI, 2,70 m de long. Alors là, c'est vraiment riquet qui nous a fait 3 mètres. 2,70 m, là, c'est quand même beaucoup plus compact et elle fait un véritable carton auprès des jeunes. C'est une voiture qui est vendue un peu moins de 7000 euros, mais qu'on prend souvent plutôt en location.
Vous vous sentez en sécurité ?
Oui, mais alors, sauf quand un camion vous double. Là,
Donc là, vous...
Là, pardonnez-moi l'expression, on serre les fesses. Ouais, franchement. Bon. Sinon, oui.
Écoutez, c'est un fil rouge, la France entière en parle, pour tout vous dire, de ce fil rouge. Mais c'est vrai, j'étais dans les rédactions ce matin, c'est une idée formidable de vous suivre, c'est très extrêmement intéressant. Donc là, vous devez être à... Vous étiez à 25 km il y a un quart d'heure, vous devez être à 24 km maintenant.
Oh 22. Parce que là, on a fait quelques descentes.
22, là, oui. Bon, vous venez évidemment avec Jonathan dans notre studio pour nous raconter ce périple. Parce que Jackie Hicks et Claude Brasseur dans le Paris-Dakar à côté de vous, c'est... Excusez-moi, c'est rien du tout. Donc Paris-Chartres, Chartres-Paris en voiture sans permis. On vous attend, en gros, il est 12h58. 13h45 à votre avis, vous serez dans le bureau.
On croise les doigts. Jonathan me fait un peu plus.
D'accord,
mais bon, allez.
Ne croisez pas les jambes si je me permets, parce que effectivement, vous emmêleriez les crayons avec les pédales. Merci Christophe à tout de suite.
RTL Midi.
Comme tous les jours, nous sommes pile à l'heure. Il est exactement 13h.